Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Intégral Sport sur RMC, on est ensemble en direct pendant une heure, tour d'horizon de l'actualité sportive du jour, vous en avez l'habitude. Au programme aujourd'hui, la tournée d'été du Paris Saint-Germain au Japon, premier contact avec les fans et les journalistes sur place, Arthur Perrault a pu se rendre compte que tout est mis en œuvre pour se montrer à la hauteur de l'engouement japonais pour les stars du PSG. Toutes les infos au transfert dans le Mercato Show comme chaque jour, le rendez-vous au quotidien avec Cyril Guimard sur la route du tour. Après la victoire de Jasper Philipsen à Carcassonne lors de la 15e étape, c'est passé pas loin pour les Français, mais c'est encore raté. Les mondiaux d'athlètes à Eugene, le programme du jour, les résultats de la nuit dernière. Et un invité, Quentin Bigot, quatrième d'un concours de lancer de marteau d'un niveau insensé hier soir. Le Français nous dira si c'est la déception ou la fierté qui prédomine aujourd'hui. Voilà le programme qui vous attend jusqu'à 19h. On vous attend au 32-16 si vous voulez réagir et poser des questions aux journalistes de la rédaction qui, comme chaque jour, sont là pour vous accompagner dans l'Intégral Sport qui démarre tout de suite sur RMC.
その後、来日直後のパリ・サンジェルマン、クリストフ・ガルティエ監督、エムバペ選手、メッシ選手、ネイマール選手ご登場です。次世代スーパーチーム、パリ・サンジェルマンの皆さんです。どうぞ。さあ、まずはクリストフ・ガルティエ監督、続いてエムバペ選手、続いてメッシ選手、最後にネイマール選手です。皆様 Welcome to Japan、 ありがとうございます。
On démarre cet Intégral Sport en vous emmenant au Japon sur les traces du PSG qui effectue son stage de pré-saison pour le plus grand plaisir, vous venez de l'entendre, de la population locale et des partenaires commerciaux du PSG. Tout ça sous les yeux d'Arthur Perrault, envoyé spécial de RMC. Salut Arthur.
Konnichiwa Simon, bonsoir à tous.
Alors Arthur, on vient d'en avoir un extrait, c'est une tournée de rockstar pour les joueurs parisiens.
Oui, les joueurs du PSG qui ont atterri à Tokyo en fin de matinée, et c'est vrai qu'ils ont tous été surpris à leur arrivée à l'hôtel avec plus de 200 supporters qui étaient là pour les accueillir à leur descente du bus, à demander des autographes, des photos, mais c'était en 100 fois plus que ce dont on a l'habitude du côté de Paris, et c'est une ferveur que j'ai aussi pu ressentir aujourd'hui. Ce matin très tôt dans le centre-ville de Tokyo, un centre-ville où on peut déjà trouver 3 boutiques officielles du club de la capitale et même un café qui a été construit très récemment dans un des principaux centres commerciaux. Et les supporters me disaient nous on a hâte que Messi, Neymar et Mbappé viennent. Il n'y a que ces 3 noms qui reviennent très souvent dans leur bouche, et forcément ça a impressionné beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain à leur arrivée.
Et bien justement, devant cet engouement, Paris a bien mis les petits plats dans les grands. Service 5 étoiles pour les fans, journalistes et partenaires japonais de cette tournée. Et tant pis si les stars parisiennes étaient un peu fatiguées.
Oui, c'est vrai que le programme est très chargé et que à peine arrivé à Tokyo, il y a donc eu cette première conférence de presse organisée avec un casting de choix et de taille. Messi, Neymar et Mbappé présents sur la scène aux côtés du nouveau coach Christophe Galtier. Et c'est vrai que les 3 attaquants parisiens se sont prêtés au jeu des photos, des interrogations sur le pays. Je propose d'écouter Neymar d'ailleurs à ce sujet, qui a semblé déjà très impressionné par le Japon.
C'est un plaisir d'être ici. Ce pays connaît le football, il y a des supporters, le climat ici est spectaculaire, le public est spécial. J'espère vraiment que cela va se passer comme on veut.
Neymar, Messi, Mbappé, tranquille en conf de presse. Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé chez nous en France. Hein. Effectivement, ils sont gâtés, les Japonais. Arthur, cette tournée, elle doit officiellement conduire le PSG vers son premier match officiel de la saison. C'est le Trophée des Champions à Tel Aviv. C'est le 31 juillet prochain. Mais c'est également une affaire de chiffres.
Oui, c'est vrai que les enjeux sur place sont colossaux pour le Paris Saint-Germain, qui estime sa communauté de fans à 6 millions voilà pour cette communauté présente sur place. Mais surtout, c'est une histoire de gros sous, parce que cette tournée estivale au Japon devrait rapporter près de 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Si on prend en compte les 3 affiches, les 3 matchs amicaux au programme à Tokyo et à Osaka, si on prend aussi en compte, et c'est là que c'est très important, tout la l'aspect promotionnel. Il y aura différentes opérations, notamment la présentation du prochain maillot extérieur pour la saison à venir. Et les joueurs du Paris Saint-Germain se rendront également dans différentes boutiques pour rencontrer des partenaires. Ce que l'on peut dire, c'est que il y a aussi un fan club présent ici déjà au Japon qui compte 80 membres. C'est vrai, quand on voit toute cette ambiance et toute cette foule qui était présente aujourd'hui, on se dit que ce chiffre ne peut que monter dans les jours et les années à venir. Une petite anecdote sympa, j'ai rencontré tout à l'heure à la fin de cette conférence de presse la présidente de ce fan club qui m'a expliqué que ils avaient demandé aux membres aux personnes qui souhaitent rejoindre ce fan club de rédiger une sorte de lettre de motivation pour prouver leur passion pour le club, pour vérifier par exemple qu'il ne s'agit pas uniquement d'un candidat fan de Messi qui suivait déjà le club du côté de Barcelone. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de la mentalité de ce fan club et tout ce qui est en train de se mettre en place ici du côté du Japon.
L'exigence des pionniers du fan club japonais du PSG, on ne plaisante pas avec l'amour des couleurs, même au pays du soleil levant. Rappelle-nous le programme qui attend les joueurs de Christophe Galtier au Japon quand même, parce que on va bosser un petit peu.
Oui, on va bosser. Demain, il y aura une visite des joueurs du Paris Saint-Germain auprès d'enfants malades dans une clinique du centre-ville de Tokyo. Et après, le sportif reprendra ses droits avec un premier entraînement, d'ailleurs ouvert aux supporters, demain à 19h heure locale, 12h heure française. Il y aura un nouvel entraînement à la même heure le lendemain. Et puis, le premier match amical prévu mercredi face au Kawasaki Frontal. Ça se déroulera du côté du Stade National de Tokyo. Il y aura une deuxième rencontre samedi et après le Paris Saint-Germain prendra la direction d'Osaka pour un dernier match amical. Voilà, ça s'annonce très très chargé encore une fois pour le club de la capitale.
Kawasaki Frontal, Urawa, Red Diamond, c'est des noms qu'on connaît mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est vrai que ce football japonais, il a une image un peu exotique hein, évidemment vu de chez nous. Mais bon, pas question pour Christophe Galtier de minimiser un petit peu l'adversité qui attend les joueurs du PSG. Oui, pour le nouvel entraîneur parisien, Paris va bien se confronter à du football sérieux. On est en pleine préparation.
Merci de nous accueillir avec autant de chaleur et de considération. Nous sommes heureux d'être ici. Nous avons 3 matchs de préparation face à des équipes de très bon niveau. On connaît à travers le monde, évidemment, le sérieux du football japonais, la qualité technique de chaque joueur, associé aussi avec beaucoup de vitesse. Ces 3 matchs, je l'espère, vont nous servir à bien nous préparer pour, évidemment, le trophée des champions. C'est pour ça que nous sommes ici, pour bien nous préparer.
Arthur, discours évidemment forcément un peu convenu de Christophe Galtier. Il allait pas dire qu'ils allaient affronter des pimpins. Il se force ou est-ce qu'on sait si ces clubs japonais s'ils tiennent la route pour encore une fois préparer la saison que s'apprête à disputer le PSG?
Christophe Galtier, on l'a senti très méfiant et je pense qu'il n'a pas tort. J'ai pu rencontrer tout à l'heure un journaliste du magazine Soccer King, qui est un des trois plus gros médias ici au Japon, justement pour parler de ces 3 adversaires du Paris Saint-Germain. Et ce journaliste m'a bien dit, attention, parce que ce sont des équipes qui sont très rapides, très à l'aide techniquement et qui surtout imposent un vrai défi physique. Et pour vous donner aussi le contexte, ici il fait très chaud, 30 degrés en moyenne, et cela va continuer dans les jours à venir. Il y a aussi un taux d'humidité assez impressionnant, minimum 80% de taux d'humidité. Donc voilà, ça va être un vrai premier test physique pour le Paris Saint-Germain, et c'est là que l'on va voir tout de suite si les joueurs de Christophe Galtier sont déjà prêts pour ensuite prendre la direction de Tel Aviv pour le trophée des champions.
Arthur Perrault, envoyé spécial de RMC sur les traces du PSG qui dispute au Japon, qui réalise au Japon son stage de pré-saison. Tu fais bien de nous rappeler qu'effectivement les conditions climatiques vont jouer un rôle déterminant dans la préparation des organismes, hein, cette chaleur et cette humidité. Ça fera forcément du bien au moment de retrouver l'Europe pour le PSG. Question un petit peu de tambouille, un petit peu effectif, Arthur. Est-ce qu'on sait si Hugo Ekitike, qui a officiellement signé au PSG hier, va rejoindre ses nouveaux coéquipiers au Japon? Si oui, quand? Est-ce qu'on sait aussi si des joueurs rentreront plus tôt? Je pense à Abdou Diallo, par exemple, ou à Mauro Icardi.
Alors la question est en train de se poser concernant Hugo Ekitike, parce qu'on nous avait indiqué avant l'annonce de son transfert que une fois l'officialisation, on pourrait envisager sa venue ici du côté de Tokyo. Pour l'instant, aucune confirmation à ce sujet pour le joueur qui a donc signé un prêt avec option d'achat de 36 millions d'euros avec bonus avec le PSG. Concernant les joueurs présents, ils viennent d'ailleurs de participer à une première séance. Mauro Icardi, qui est annoncé lui en partance avec notamment un intérêt de Monza, devrait rester jusqu'au bout de la tournée. La question se pose un peu plus pour Abdou Diallo. C'est vrai que lui aussi est annoncé outre Manche et aussi du côté de l'Italie. Pour l'instant, pas d'éléments de réponse pour te répondre très clairement, Simon. Ces joueurs sont présents, participent aux séances d'entraînement et pour l'instant, aucun départ n'est à l'ordre du jour.
Merci beaucoup Arthur Perrault, notre envoyé spécial RMC sur les traces du PSG au Japon. On se retrouve évidemment très vite sur l'antenne.
Exactement, à très vite, salut Simon.
La tournée d'été du PSG au Japon, vous n'en ratez rien sur RMC grâce à Arthur sur place et toute la rédaction foot. Vous réagissez, vous supporters parisiens, sur l'antenne comme Dimitri qui a composé le 32-16 et qu'on est ravis d'accueillir dans l'Intégral Sport. Salut Dimitri.
Salut l'équipe. Salut l'équipe.
Dimitri. Ouais, ça va très bien et toi, avec cette chaleur?
Très bien, impeccable.
Ouais, t'es à Paris ou t'as réussi à t'échapper un petit peu?
Ah non, je suis dans le Nord, moi.
Dans le Nord, bon, il fait un petit peu moins chaud, mais je crois que personne va être épargné. Dimitri, supporter du PSG, qu'est-ce que tu penses de cette tournée au Japon? C'est du business ou c'est une vraie préparation?
C'est du business, les gars. Il y a juste une phrase qu'on a entendue tout à l'heure qui doit nous mettre la puce à l'oreille. C'est l'entraînement ouvert au public. À Paris, on les voit jamais, on les approche jamais, et là, juste pour les attirer, ils ouvrent l'entraînement au public.
On rappelle effectivement qu'ils ont disputé un premier match de préparation au camp des Loges, c'était face à Quevilly, la veille du départ pour le Japon, et que les supporters qui s'étaient rendus sur place ont été, tout comme les journalistes, empêchés d'assister à la rencontre.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Là-bas, ils veulent vendre du maillot, ils vont le vendre du maillot parce que forcément c'est un marché asiatique, faut le toucher. Donc forcément, ils vont tout faire bien pour là-bas. Ah, ça pour fait, moi, c'est ça, que du business, en fait.
Ça fait partie de la vie des grands clubs, j'ai envie de te dire, Dimitri, non? Ça t'agace ou tu le comprends?
Les deux, en fait. Je peux comprendre, niveau marketing, c'est normal qu'ils veulent gagner de l'argent, même s'ils en ont déjà beaucoup. Mais c'est agaçant quand on voit qu'ici, on voit rien, quoi. Nous, ici, on a rien, quoi.
Alors, c'est vrai qu'ils sont gâtés, les Japonais, hein, on le disait à l'instant avec Arthur, hein, Messi, Mbappé, Neymar, tous les trois sur la scène dès la descente de l'avion pour répondre aux questions d'une conférence de presse. Bon, très convenu, hein, c'était très mis en scène, on va pas se le...
Moi, j'ai essayé d'aller les voir, hein, personnellement, j'ai essayé d'aller les voir quand ils sont venus jouer à Lens, on est allé à l'hôtel, impossible d'approcher l'hôtel.
Ouais, c'est un reproche impossible. Que tu ferais à la direction parisienne, ça, de pas assez s'ouvrir à ces vrais supporters, entre guillemets, parisiens.
Oui, parce que, pour être loin de vous, j'habite pas loin de l'hôtel où les joueurs viennent jouer, quand ils viennent jouer à Lens. Et c'est la seule équipe où l'hôtel, on peut pas approcher l'hôtel. Les autres équipes, ils sont très accessibles, très sympathiques, on peut discuter avec les joueurs, alors que là, rien du tout. C'est vrai que je me dis qu'en fait, au Japon, c'est que du business, c'est que du marketing pour vendre du maillot.
Bon, alors que du marketing, Christophe Galtier a quand même eu l'occasion de souligner que il fallait pas sous-estimer l'opposition à laquelle va faire face le Paris Saint-Germain. Trois clubs du plus haut niveau japonais. Malgré tout, ça va permettre de s'étalonner un petit peu.
Justement, il faut pas froisser le Japon, donc il peut pas dire l'inverse. On va pas se mentir, les gars. Il peut pas dire l'inverse. Il est obligé de le dire que voilà, on va jouer une belle équipe et tout ça, mais il est obligé. C'est pas lui qui le décide, ça, malheureusement. Je suis sûr que, au plus profond de lui, je suis sûr que ça l'embête d'être là-bas, quoi.
Donc toi, tu préférerais que le PSG dispute des matchs face à des équipes un peu plus sérieuses, en tout cas plus adaptées au style de celles qu'elles.
Après, voilà, s'ils ont vraiment l'envie de gagner une fois la Ligue des Champions, oui, à un moment donné, il faut se préparer pour, quoi. C'est pas en jouant l'équipe du coin au Japon qu'on se prépare à jouer contre Manchester City, par exemple.
Bon, ouais.
Ou le Real.
Oui, bon, écoute.
Déjà en Ligue 1, on s'emmerde un peu. Alors si là on prend pas la préparation pour taper des top équipes, on fait quoi?
Bon, après, Arthur l'a rappelé, il y a aussi la dimension climatique. Hein. Regarde, United et Liverpool, ils étaient en Thaïlande. Je crois qu'ils vont rechercher aussi, ça fait partie de la préparation physique, des conditions climatiques très difficiles, la chaleur, l'humidité, pour préparer au mieux les organismes à la reprise. Un petit mot avec toi, Dimitri, ouais. Supporter parisien, qu'est-ce que tu penses de la sélection qui a été faite, du groupe qu'a emmené Christophe Galtier au Japon? Est-ce que tu comprends les choix qui ont été faits?
Par contre, niveau groupe et niveau transfert et tout ça, là je suis content. C'est fini de bling-bling, fini d'acheter des stars, fini de rêver plus grand, comme ils disent. Rêvons tout court. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut acheter des joueurs, il ne faut pas acheter des stars.
Bah, tu as déjà trois des meilleurs joueurs du monde devant, donc effectivement... C'est ça.
Mais si Neymar, tu comptes parmi les trois meilleurs?
Alors moi, je n'ai pas trop le droit de m'exprimer à cette place-là, mais oui, si tu me demandais mon avis, je pense que Messi est encore un des meilleurs joueurs du monde, oui.
Bon, pas les questions d'avis cette année, hein.
Ah, écoute.
Cette année, au même âge, voire même plus vieux, t'as du Ronaldo, t'as du Lewandowski, ils sont encore au-dessus. Hein.
Écoute, il fallait s'adapter. Ne sous-estime pas, hein, tout de même, le petit Argentin.
Non, attention, hein, j'ai beaucoup de respect pour Messi. Hein, ce qu'il a fait, c'est une légende. Hein, là-dessus, ça, on n'enlève rien. Mais aujourd'hui, au jour J, il ne fait pas partie des trois meilleurs attaquants du monde, quoi.
Bah, écoute, avec la Coupe du Monde qui arrive en hiver, hein, pas interdit de penser qu'il pourrait hausser le ton. L'Argentin.
Peut-être que Neymar va vouloir se réveiller cette année.
Ouais, écoute, en tout cas.
Neymar, tous les ans, il dit qu'il va se réveiller, donc.
Peut-être que le réveil va finir par sonner. Enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite à vous, supporters parisiens. Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir fait le 32-16 et d'être venu nous donner ton avis, un avis bien tranché sur cette tournée du PSG au Japon. On le rappelle, vous ne manquerez rien sur RMC avec Arthur Perrault sur place, qui vous fera vivre notamment les rencontres amicales prévues face au club de première division, de la première ligue, enfin du plus haut niveau professionnel japonais. Vous restez bien avec nous, parce que dans un instant, nous, on va continuer de parler transfert. On l'a abordé à peine avec Dimitri et le PSG. On va parler recrues, arrivées, départ, rumeurs. Dans un instant, c'est l'heure du Mercato Show. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Simon Dutin.
C'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 19h sur RMC. Tour d'horizon de l'actualité sportive dans son ensemble, avant de retrouver l'After Tour avec Christophe Cessieux, toute la Dream Team Vélo à Carcassonne après cette 15e étape et avant la journée de repos. Nous, on déroule notre page foot avec les dernières infos transferts. C'est l'heure du Mercato Show.
RMC,
le Mercato Show.
Les dernières infos du jour avec Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico.
Salut à tous.
Alors, qu'est-ce que t'as dans ta besace? Je regarde au fond du sac. On débute avec l'Italie et Mourinho qui s'active pour un super joueur. Hein.
Oui, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Paolo Dybala serait le rêve de José Mourinho pour ce mercato estival. On le rappelle, hein, le joueur est sans club depuis son départ de la Juve. Mourinho aurait eu un premier contact avec Dybala avant de l'appeler une nouvelle fois il y a quelques jours pour le convaincre de rejoindre la Roma. Le contact est aussi en marche entre le directeur général du club, Thiago Pinto, et l'entourage du joueur. Il reste encore quelques détails à régler, surtout sur le montant du salaire, des commissions à verser à son agent. Et selon le média italien, un montant de 5 millions d'euros par an est évoqué pour attirer le joueur à la Roma.
Ouais, on sait que l'Inter et Naples étaient intéressés, que la Roma pourrait perdre le jeune Zaniolo. Où jouera la Gioia la saison prochaine?
Ce serait un super coup quand même pour la Roma.
Ah, ce serait fabuleux. On se met à la place des supporters de la Roma. En France, l'OL cherche un numéro 6.
Oui, Lyon cherche un milieu défensif et c'est William Carvalho qui est pisté après la défaite en match amical hier. Peter Boss a confirmé que l'OL était à la recherche d'un milieu défensif. Alors après le recrutement de Le Penant à Caen en début de mercato, selon l'équipe, le cas de William Carvalho est très étudié car on en parlait hier. Il y a cette histoire entre Aouar et le Betis Séville et l'Olympique Lyonnais. Le joueur du Betis Séville, William Carvalho, a été proposé par le club andalou afin de faire baisser le prix d'Oussem Aouar qui est courtisé par le club de Liga depuis quelques semaines, donc c'est un jeu à trois bandes en fait entre Aouar, l'OL et le Betis Séville pour savoir si cette opération va pouvoir se faire dans les prochaines semaines.
C'est vrai qu'on connaît l'importance de la sentinelle, hein, le regista dans le système prôné par Peter Bosz, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Effectivement, le Penant, bon, grand espoir qui arrive de Caen, mais c'est un peu léger. Bosz rappelait hier que pour lui, Tolisso est amené à jouer plus haut. Donc il faut vraiment, il y a un besoin.
Ça peut être une solution avec Carvalho.
Et ce William Carvalho, c'est vrai que bon, il avait signé à la surprise générale au Betis il y a quelques quelques années, mais à l'époque, l'Europe entière se l'arrachait. Surpuissant, très technique, peut casser les lignes, ce serait pas mal. Hein.
Et une petite info aussi sur Lyon, pour compléter le point Lyon, c'est nos confrères de Foot Mercato qui l'annoncent à l'instant que Léo Dubois est tout proche de quitter l'Olympique Lyonnais. Il serait en route pour Galatasaray, dont le montant est attendu à 3 millions d'euros. Léo Dubois qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Olympique Lyonnais, donc voilà, Dubois qui pourrait quitter Lyon dans les prochaines heures.
Oui, qui a disparu un petit peu de l'équipe type avec l'émergence du jeune Malo Gusto. Oui. Bon, il faudra peut-être le remplacer, notre ami Léo Dubois, s'il venait à quitter, même s'il y a un réservoir, effectivement.
Lyon qui est en stage aux Pays-Bas à partir de demain.
À partir de demain. Et qui s'est, effectivement, pour l'instant, bien renforcé, qui fait un beau mercato. Bon, encore une fois, Oussem Aouar, on en a beaucoup parlé sur l'antenne, on vous donnera les dernières infos du côté du Bétis. Bon. Je crois peut-être un petit peu surprenant, qui sait, à suivre. L'OM qui cherche à recruter Jonathan Clauss.
Oui, d'après l'équipe, l'OM a formulé une deuxième offre au RC Lens à hauteur de 6 millions d'euros. Plus 1 million d'euros de bonus pour obtenir la signature de Jonathan Clauss. Il y avait déjà eu une offre qu'on vous avait dévoilée sur RMC de l'OM il y a quelques jours, 5 plus 1 million d'euros. Elle a été refusée par le club lensois qui réclame toujours 10 millions d'euros pour le joueur qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec le RC Lens. Marseille prépare donc une nouvelle offensive pour tenter d'attirer l'international français, même si le club phocéen travaille sur un plan B au cas où si le dossier Clauss n'aboutit pas.
Oui, alors Jonathan Clauss, le problème c'est qu'il a commencé à taper dans l'œil de certains clubs anglais également. Il y a nos confrères du Daily Mail qui rapportaient aujourd'hui, je crois que Chelsea s'intéresse à lui et que Manchester United cherche également un latéral droit parce que notre ami Van Bissaka ne plaît pas à Ten Hag, le nouvel entraîneur.
On peut faire aussi monter le prix.
Voilà. Oui, bah du coup, on parle de 10 à 12 millions d'euros. Ça commencerait peut-être à devenir compliqué pour l'OM qui, dans le même temps, cherche un deuxième gardien après le départ de Mandanda.
Oui, l'OM a perdu Steve Mandanda pendant ce mercato estival. Il est parti à Rennes. Donc Pablo Longoria cherche un renfort pour épauler Paul Lopez. Selon l'équipe, Marseille est très active dans le dossier du portier espagnol du Celta Vigo, Ruben Blanco, le gardien de 26 ans. Sauf que pour le moment, le club espagnol ne trouve pas son remplaçant. Et donc, on attend de trouver son remplaçant au Celta Vigo avant d'autoriser le gardien à partir en prêt pendant ce mercato d'été.
Et évidemment, toutes ces infos mercato, on n'a pas fini ce mercato show, mais sont à dérouler et à retrouver dans l'after foot à partir de 20h autour de Timothée Mémon. Vous n'hésitez pas, vous faites le 32-16. Nul doute que toute l'équipe reviendra sur ces rumeurs ce soir. Toujours en France, l'OGC Nice qui a officialisé une nouvelle recrue ce matin.
Nice a officialisé l'arrivée de Rares Ilié en provenance du Rapid Bucarest. Selon nos informations, l'OGC Nice avait effectué une première offre de 5 millions d'euros, puis une deuxième après le refus du club roumain. Formé au Rapid Bucarest, il y a 19 ans, il évolue au poste d'attaquant au ailier gauche. Il a compilé 6 buts et 10 passes décisives la saison passée en 36 matchs et la durée de son contrat n'a pas été annoncée par le club niçois.
Alors qu'à l'habitude, c'est toujours un petit peu nébuleux autour des joueurs qui arrivent de ces contrées, comme la Roumanie.
Considéré comme un grand espoir.
Mais c'est ça, hein, y a quand même une grosse agitation autour son talent. Il paraît que ça gigote beaucoup hein, chez le jeune Roumain, qui viendrait certainement remplacer, je pense, Justin Kluivert, qui est reparti.
On va pas dire qu'on le connaît, on n'a pas regardé.
Non, justement, on ne parle que des infos qu'on est allé chercher chez nos confrères étrangers. L'Ajax et United qui sont d'accord pour le transfert d'un défenseur.
Oui, l'Ajax a annoncé avoir trouvé un accord avec Manchester pour le transfert de Lisandro Martinez. Les deux clubs ont convenu d'une indemnité de 57 millions d'euros avec 10 millions de bonus variables. S'il passe avec succès sa visite médicale qui devait avoir lieu aujourd'hui, le défenseur central de 24 ans s'engagera avec le club anglais. L'Ajax avait recruté l'international argentin en 2019 pour 7 millions d'euros, donc c'est une belle plus-value.
Oui, un petit peu à l'image de ce qu'a réalisé certains clubs portugais. Généralement, on sait...
ils sont spécialistes.
Oui, on s'y retrouve dans les affaires du côté de l'Ajax. La bonne nouvelle pour les supporters de United, c'est que Erik ten Hag, le nouveau manager des Red Devils, le connaît bien.
Le connaît très bien, oui.
Et généralement, les défenseurs centraux argentins se laissent pas faire.
C'était sa priorité quand il est arrivé, mais il a eu.
Voilà, et United qui était en concurrence avec Arsenal, je crois, sur ce dossier. Dernière info en Espagne.
Oui, absent de la tournée estivale aux États-Unis, Martin Braithwaite est indésirable au FC Barcelone. Sauf que l'attaquant de 31 ans lui veut rester au FC Barcelone. Le club n'en veut plus, et c'est selon des médias espagnols Valence qui est revenu aux affaires pour recruter l'attaquant. Il est sous contrat jusqu'en 2024 et pourrait peut-être partir à Valence dans les prochaines semaines. Mais le joueur ne veut pas quitter le FC Barcelone.
Oui, bah. si on l'avait dit il y a quelques années, Braithwaite, qui jouerait au Barça.
Il est dans la même situation que Samuel Umtiti quand on en parlait hier dans le Mercato Show. C'est la même situation. Le club n'en veut plus. Il les a pas emmenés aux États-Unis, donc il cherche des portes de sortie.
Ouais, le problème de Braithwaite, c'est que le Barça vient de recruter Lewandowski, qu'il y a Aubameyang, que Dembélé a re-signé, que Memphis Depay est toujours là, quand Ansu Fati revient de blessure, que Ferran Torres est arrivé l'hiver dernier. Donc, forcément, si c'est pour. C'est même pas cirer le banc, là. Hein, on va parler de cirer une des 100 000 places du Camp Nou chaque semaine. Peut-être que Valence, ce serait une belle porte de sortie tout de même pour un ancien joueur du TFC, ouais. Des Girondins de Bordeaux, de Middlesbrough, quand même. On va pas faire la fine bouche, monsieur Braithwaite. Bon. Ah,
okay. J'espère qu'il nous a entendu.
Ah, mais bien sûr, Martin Braithwaite, comme beaucoup de joueurs du FC Barcelone, et d'ailleurs qui écoutent l'Intégral Sport religieusement. Merci beaucoup, Nico.
Toutes
les infos Mercato, le Mercato Show, tous les jours dans l'Intégral Sport, évidemment. Et puis, toutes les infos Mercato, je vous le disais, dans l'Afterfoot qui est là sur RMC chaque jour de l'été. On ne rend pas la case. Vous restez bien avec nous. L'Intégral Sport revient dans un instant. On prendra la route du Tour pour revenir avec Cyril Guimard, notre consultant sur la 15e étape qui s'est achevée à Carcassonne par la victoire du Belge Philipsen. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
h 30, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 19h sur RMC. On fait le tour de l'actualité sportive. On vient de faire une grosse demi-heure foot. On est revenu sur l'actualité du PSG en stage au Japon et puis toutes les infos Mercato. Évidemment, je vous signale avant qu'on passe à notre petite page Tour de France et qu'on retrouve Cyril Guimard à Carcassonne, qu'en ce moment se dispute la troisième journée de l'Euro féminin de football dans le groupe C, le groupe de la Suède et des Pays-Bas, de rencontres qui se disputent en ce moment et qui nous intéressent, puisque la Suède est première à l'heure actuelle, les Pays-Bas deuxième. La Suède qui mène actuellement 1-0 face au Portugal, alors que les Pays-Bas font match nul contre la Suisse. Si les scores en restaient là et que les positions dans ce groupe C demeuraient inchangées, eh bien sachez que la France déjà qualifiée avant son match face à l'Islande lundi, rencontrerait les Pays-Bas tenantes du titre en quart de finale, ce qui serait malgré tout un moindre mal. Elles ont beau être tenantes du titre, les Pays-Bas, elles ont fait moins forte impression quand même depuis le début du tournoi que les redoutables suédoises qui mènent donc 1-0 après 29 minutes grâce à un but de Engeldal. Évidemment, Timothée Mémon et toute sa bande reviendront sur ces résultats et sur ce qui attendra la bande de Corinne Diacre dans l'afterfoot à partir de 20h. Avant ça, vous retrouverez l'after tour à partir de 19h en cette veille de journée de repos, parce que comme tous les soirs à 18h30, on fait, vous l'avez entendu, un petit point de Tour de France avec Cyril Guimard, le druide de la team RMC qui nous attend à Carcassonne. Salut Cyril.
Oui, bonsoir. Effectivement, je vous attends à Carcassonne où on va rester deux jours puisque demain, il n'y aura pas d'étape, ce sera une journée de repos.
Et oui, et vous aussi mon cher Cyril, avec toute la bande de l'Intégral Tour et After Tour, vous l'avez bien mérité, votre journée de repos.
Ne dites pas de bêtises. Les journalistes, vos collègues,
vous allez bosser,
sont en vacances demain, ils n'ont pas le droit de travailler.
D'accord.
Moi, j'ai l'obligation.
L'obligation.
Mais comme c'est pas un travail, c'est pas grave.
Oui, ça va. On sait que tu adores ça, Cyril. Et nous, on se régale évidemment sur l'antenne de RMC. Alors aujourd'hui, 15e étape. Cyril, c'était quasiment annoncé. Les sprinteurs n'allaient pas se laisser chaparder, ce qui était leur première occasion garantie finalement de briller depuis le retour du Danemark. C'est pourtant passé pas loin hein, pour Alexis Goujard et surtout pour Benjamin Thomas, repris à quelques hectomètres comme on dit de la ligne, où c'est finalement Jasper Philipsen qui a passé les boyaux de son vélo en premier. Est-ce que c'est une victoire logique, mon cher druide?
Alors, cette étape devait être une étape réservée aux sprinters. Elle l'a été au final, mais il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, et des choses que l'on n'attendait pas, et des choses qui auraient pu être dramatiques. Alors, pour les sprinters, on savait qu'ils allaient tout faire pour l'emporter, parce qu'il leur reste, quoi, une, deux, trois. Oui, il leur reste trois occasions pour aller gagner des étapes. C'est quand même peu, puisque le reste, ça sera la haute montagne. Donc, effectivement, il s'en est fallu de peu que, on ait la première victoire victoire française avec Benjamin Thomas qui, à 40 et quelques kilomètres de l'arrivée, avait porté une violente attaque avec Alexis Goujard. Malheureusement, ça se terminera exactement à 450 mètres de la ligne et les fous furieux derrière vont s'expliquer et on a la victoire des sprinters aujourd'hui. Et puis à noter que Van Aert fait encore deuxième, qu'il se fait battre, mais Philipsen a réglé tout le monde.
Oui, le Belge qui s'est montré très fort dans la dernière ligne droite, parce qu'en plus il s'est vraiment quand même approché des rambardes.
Des balustrades, t'as vu ça aussi, toi.
Incroyable, et effectivement numéro d'équilibriste, et il a quand même réussi à remettre du gaz derrière pour gagner sur la ligne. Victoire donc de Philipsen au sprint. Pas de changement en tête du général pour le moment, mon cher Cyril, pour le moment, parce que la grosse info aujourd'hui, c'est que le maillot jaune Jonas Vingegaard, qui a chuté sans gravité, a perdu sur abandon ses deux porte-flingues, Primoz Roglic et Steven Kruijswijk. On va regarder cette dernière semaine différemment désormais, Cyril.
Ben, c'est l'enseignement le plus important, dramatique bien sûr, sur ce Tour de France, c'est que cette étape qui ne devait pas être, on va dire c'était une étape de transition, craignait un peu le vent, mais les routes étaient suffisamment abritées, tout petit peu sur le final ça a frétillé pour monter des coups de bordure, mais il restait plus suffisamment de coureurs pour cela. Et puis effectivement, Roglic qui ne prend pas le départ ce matin. Quatre coureurs de l'équipe Jumbo qui font un vol par terre, dont un, Kruijswijk, qui ne repartira pas, vraisemblablement victime d'une fracture de la clavicule. Mais dans cette même chute, il y avait Van Aert, qui ne sera pas touché véritablement. Et puis, il y en a une autre un petit peu plus loin, avec Tiche Benot et le maillot jaune. Ouais. Et imaginez que le maillot jaune se retrouve dans la situation de Kruijswijk, il aurait été contraint aussi à l'abandon. Alors, pourquoi il y a une équipe le même jour à un abandon pour maladie et quatre coureurs qui vont par terre? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Pourquoi quatre coureurs alors que ça n'est pas, c'est des choses quand même relativement rares? Peut-être un petit peu de décompression, décontraction, ou alors la chaleur peut-être qui ralentit un peu les réflexes. Mais c'est quand même un coup de semonce important pour tout le monde. C'est-à-dire que le tour peut se jouer sur 30 centimètres, c'est tout. L'avantage pour Pogacar, c'est que les deux équipes se retrouve aujourd'hui à égalité sur le plan collectif, puisqu'il y a deux abandons chez Pogacar et il y a deux abandons chez Vingegaard.
Alors c'est pour l'arithmétique, mais Roglic, Kruijswijk, c'était quand même les deux, a priori, les deux plus forts pour accompagner Vingegaard le plus haut, le plus loin dans les étapes de montagne, non?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire on est en train de redistribuer les cartes. Alors, bon, demain, c'est une journée de repos. Tout le monde va tirer un peu les enseignements de tout cela. Et Pogacar, de toute façon, lui, revient à égalité au niveau des équipiers. Et c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, c'est important pour la fin du tour. Peut-être un peu plus de suspense, parce que de plus en plus, on allait quand même vers le sentiment que Pogacar ne pourrait rien faire contre cette forte et puissante équipe Jumbo. Eh bien, aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas.
Un mano à mano, voilà à quoi on risque d'avoir droit entre Pogacar et Vingegaard dans cette dernière semaine. On ne va pas s'en plaindre. Vous reviendrez évidemment tout à l'heure dans l'After Tour, Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux et Jérôme Coppel et toi évidemment, sur ce qu'on doit, ce qu'on peut attendre de ce duel durant cette dernière semaine. Demain, on disait journée de repos. Mardi, 16e étape, Carcassonne-Foix. Deux cols tout de même, de première catégorie, avec notamment, Cyril, ce mur de Péguerre au pied du col de Port, avec ses pourtant à 18%. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce que ça peut faire bouger un petit peu à l'avant de la course en général?
Ça bougera, soyez pas impatients, ça bougera parce que d'abord on est au lendemain d'une étape de repos et de temps en temps après les étapes de repos il y a des moteurs qui sont un petit peu encrassés, comme je dis ça craque, ça fume, ça tire mais ça n'avance plus quoi. Donc, et on a souvent des grosses défaillances et puis on a aussi une arrivée en descente, donc pas au sommet, puisqu'on aura une descente pour aller jusqu'à Foix. Donc beaucoup de choses peuvent se passer sur cette étape, et puis ça sera la façon de voir comment Vingegaard va réorganiser son équipe pour défendre son maillot jaune, et comment Pogacar, qui n'a plus rien à perdre, deuxième ou quinzième, j'ai l'impression que pour lui, et c'est vrai pour d'autres, il va pas défendre une deuxième place, il va essayer d'aller chercher le jaune. Alors ça promet du spectacle. Et si c'est pas mardi, ce sera mercredi. Et si c'est pas mercredi, ce sera jeudi. Mais il se passera quelque chose.
Oui, parce qu'avec la journée de repos, il va plus rester beaucoup d'occasions d'effectivement d'attaquer. Et lorsqu'on connaît le panache et la spontanéité du double tenant du titre du Tour de France, effectivement, on peut s'attendre à du spectacle.
Oui. Et le dernier petit point.
Bien sûr.
Les tests Covid vont passer demain aussi. Ça peut clairsemer les rangs.
Oui, ça peut. Surtout que ça s'est effectivement un petit peu accéléré après les tests de l'ensemble du peloton qui étaient revenus tous négatifs. Effectivement, on a vu que chaque jour apportait son lot de contaminés et donc d'abandon. On croise les doigts pour que ça nous prive pas quand même de ce duel dans cette dernière semaine et du suspense qu'on a hâte de voir se décanter effectivement. On te retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Cyril. On te retrouve tout à l'heure 19h 20h l'after tour comme tous les jours et demain journée de repos. Mais vous ne manquerez rien sur RMC ou si vous avez manqué des choses depuis le début du tour, eh bien best of de l'intégrale et de la After Tour, 15h, 18h, pour laisser nos journalistes se reposer un petit peu, eux aussi, ils l'ont bien mérité. Vous restez avec nous, 18h40, l'Intégral Sport revient dans un instant. On va prendre la direction de Eugene, dans l'Oregon, aux États-Unis, où on va retrouver dans un instant Quentin Bigot. Il a été immense hier au lancer de marteau, et pourtant, il termine au pied du podium. C'est dire si le niveau était relevé. On va voir avec lui s'il est plutôt déçu ou s'il est plutôt fier de sa performance. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
h 42, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 19h. Vous retrouverez évidemment toute la bande de Christophe Cessieux et la Dream Team Vélo pour l'After Tour jusqu'à 20h avant l'After Foot. Comme tous les soirs, c'est l'été sur RMC. Vous commencez à vous habituer. Mais vous savez, jusqu'au 24 juillet prochain, RMC vous fait vivre les championnats du monde d'athlétisme. Ils se déroulent cet été à Eugene, dans l'Oregon. C'est aux États-Unis qui accueillent l'événement pour la première fois de leur histoire. Du coup, RMC a envoyé le plus américain des journalistes de sa rédaction sport, Aurélien Tiercin, qu'on retrouve tout de suite. Salut Aurélien.
Hi guys, salut.
Hi guys. Salut Aurélien. On a vécu hier ce qui était le premier grand rendez-vous de ces mondiaux pour la délégation française, la finale du lancer de marteau homme. On espérait une médaille pour Quentin Bigot, vice-champion du monde à Doha il y a 3 ans. C'est pas passé loin, mais c'est toujours cruel. Une 4e place au pied du podium. Et il était 4e au pied du podium. Il est en direct sur RMC dans l'Intégral Sport. Bonsoir Quentin et merci d'avoir accepté notre invitation.
Salut Quentin.
Bonjour.
Quentin, après cette finale, qu'est-ce qui prédomine chez vous ? Est-ce que c'est la déception de finir 4e ou bien la fierté d'avoir, j'ai envie de dire, plus que bien figuré dans ce concours d'un niveau peut-être jamais atteint auparavant dans cette compétition ?
Bah, c'est forcément un tout petit peu des deux, parce que quand on vient à un championnat du monde, on vient pour chercher une médaille. Donc forcément, je suis un peu déçu de ne pas prendre une médaille, mais c'est la loi du sport. Moi, en tout cas, j'ai rien à regretter sur le concours en soi. J'étais à mon meilleur niveau, j'ai franchi la ligne des 80 mètres en finale mondiale, ce qui est quand même énorme. Il n'y a pas beaucoup de lanceurs de marteau qui l'ont fait dans l'histoire. Et non, je suis quand même... C'est plutôt positif que négatif, c'est-à-dire que je progresse tous les ans et je lance de plus en plus loin en championnat. Le niveau, il est quand même très costaud. Hein. Il y aurait des années où j'aurais été facilement sur le podium, voire champion du monde avec cette perf-là. Donc, il faut continuer ce qu'on fait avec mon entraîneur et surtout pas se remettre en question aujourd'hui, puisqu'on est à 2 ans des Jeux de Paris, donc les choses sont tracées, quoi.
Ce qui a frappé hier, c'est votre régularité, finalement, l'homogénéité des distances que vous avez réalisées à chacun de vos essais. Hein. Si ça avait été un concours de régularité, ce serait vous le champion du monde. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller chercher votre record personnel lors de cette finale et peut-être une place sur le podium ?
Qu'est-ce qui m'a manqué, je sais pas trop, c'est difficile à dire puisque je sentais que j'étais au top de ma forme, que techniquement j'ai fait très très bon lancer. Après j'ai simplement atteint les limites de mon niveau personnel, le niveau qui était le mien, c'est-à-dire lancer un peu plus de 80 mètres. J'ai fait une fois 80 mètres 55 cette saison et ce que j'ai fait hier, ça reste quand même la deuxième meilleure perf de ma carrière et c'est le meilleur concours de ma carrière. Donc j'ai été simplement bloqué par mon propre niveau et on ne demande que ça finalement aux athlètes, c'est d'être présent le jour J au mieux du mieux. Il faut quand même se dire que certes, je suis médaillé d'argent en 2019, mais j'avais fait que 78 mètres 19, là j'aurais eu que la 8e place avec cette perf-là par rapport à ce que j'ai fait à Doha.
Quentin Bigot, 4e hier de la finale du lancer de marteau au championnat du monde d'athlétisme et l'invité de l'Intégral Sport sur RMC. Aurélien, toi qui suis cette compétition, tu as commenté évidemment le concours de Quentin. Une question peut-être pour notre champion.
Ouais, bah Quentin, ce qui marque aussi, c'est à chaque fois, voilà, la tête posée à la fin, il répond toujours avec plaisir à nos questions. Et nous, c'est ce qui est encore plus frustrant, ça doit être ton cas, Quentin, parce que 4e cette fois au Mondiaux 2019, 5e à Tokyo, 4e au Mondiaux de Londres. Heureusement qu'il y a cette médaille d'argent pour valider un petit peu ton travail, parce qu'effectivement, tu progresses et ça reste vraiment au pied du podium à chaque fois. Comment tu fais pour repartir sans avoir envie de baisser les bras parfois?
Bah moi j'aime aussi le process, j'aime tout ce qu'on fait à l'entraînement avec mon entraîneur, j'aime tout ce qu'on met en place, j'aime ce qu'on va faire de nouveau par exemple à la rentrée, on va essayer de nouvelles choses pour progresser. Moi c'est ça qui me plaît, c'est aussi la progression personnelle, le chemin, et on sait qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis 7 ans maintenant que je m'entraîne avec Pierre-Jean, puisque par saison on réussit, je progresse d'un mètre à 1m50, donc on compte pas du tout s'arrêter là. Moi je suis motivé par le résultat qu'il y aura peut-être dans un ou deux ans. Je me dis que si dans un an je prends encore un mètre, et ben je serai à 81 mètres et là clairement les choses seront plus les mêmes avec les trois devant. Et puis pour les Jeux de Paris qui reste l'objectif ultime de ma carrière, où ben si je sais lancer à 81,50 ou 82 mètres, ben clairement je peux aller jouer pour le titre. En tout cas c'est notre objectif et c'est ce qui me motive tous les jours de voir que je progresse. C'est pas comme si j'avais des saisons en dents de scie, là je veux dire je suis sur une montée qui est linéaire de mes performances depuis quelques années, donc c'est ça qui me motive aussi. Puis voilà, pour moi j'ai l'impression de m'être quand même bien réalisé hier, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lancer et c'est la première chose importante pour moi, c'est d'avoir été acteur de mon concours et la régularité montre que ben on avait réglé les horloges aux bonnes heures avec Pierre-Jean en arrivant ici et que le travail avait été fait. Donc après c'est du sport, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière et malheureusement pour beaucoup il y a que les médailles qui comptent et ce qui reste derrière compte pas forcément. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, c'est pour ça qu'il y a une finale des 8 et que la finale des 8 a toujours un caractère important. En tout cas les spécialistes le savent, c'est vrai que je ramène pas de médailles mais bon quand même 80 mètres, voilà, le jour J c'est pas rien.
Justement, Quentin Pierre-Jean, c'est Pierre-Jean Vazel, votre entraîneur. On l'a entendu après vos qualifs. Il disait que vous n'étiez pas totalement satisfait hein, des lancers qui vous avaient pourtant permis de vous qualifier en finale. Et il disait, je suis content, c'est bon d'arriver frustré en finale. Du coup, ça va il va faire une bonne finale. C'est vrai, Aurélien l'a souligné. On souligne votre gentillesse, votre fair-play, votre calme. Vous êtes quelqu'un de très posé. Je vais vous poser une question peut-être stupide et vous avez le droit de me répondre que c'est stupide, mais est-ce qu'il vous a pas manqué, alors peut-être encore plus de frustration, j'allais dire peut-être de la colère ou de la méchanceté pour réussir à aller encore plus loin hier? C'est quoi le petit ingrédient manquant?
Non, il y a, pour lancer loin, de toute façon, il faut pas de méchanceté ou de colère, parce que le marteau, c'est un sport de relâchement, donc il faut être le plus relâché possible au niveau des épaules et des bras. J'ai tenté d'aller au-delà de ma zone de confort, c'est-à-dire 80 mètres et plus. J'ai un petit regret sur mon cinquième essai où je fais 79,85 je crois et je lâche un peu tôt le marteau, le jet est avorté et finalement il y a presque 80 mètres. Bon après ça c'est quand on essaye d'être sur des rythmes supérieurs à ce qu'on sait faire, ben forcément c'est pas dit que ça tienne et bon bah ben, ça a pas forcément tenu. Mais qu'est-ce qui me manque, c'est continuer à m'entraîner, continuer à progresser. Voilà, l'année dernière au jeu de Tokyo je fais un peu plus de 79, là je fais un peu plus de 80 mètres. Il faut laisser le temps au temps de progresser et ce que vouloir progresser trop vite, c'est peut-être aussi avoir des chances de se blesser dans l'année. Cette année, je me suis pas blessé du tout. On a fait vraiment très attention. Donc moi, je veux continuer vraiment sur cette dynamique-là. Je suis dans le bon âge pour continuer à être performant à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de raison que dans les années suivantes, je lance pas un peu plus loin.
Et Quentin, tout simplement, alors t'as lancé, t'étais la première vraie chance de médaille de l'équipe de France, le premier poids lourd de ces bleus, et bah tu les as bien lancés, et on voit que ça marche quand même pas mal. On a fait carton plein ou presque pour se qualifier en finale. Comment tu sens cette équipe de France qui a un petit peu traversé des moments compliqués à Doha avec simplement 6 finalistes et 2 médailles dont tu faisais partie, à Tokyo simplement Kevin Mayer médaille d'argent, et après c'était un petit peu la crise. Là, ça a l'air d'aller mieux. C'est aussi ton ressenti?
Bah, écoute, nous, en tant qu'athlètes au sein de l'équipe de France, on n'a jamais vraiment ressenti de grosse crise. Il y a toujours eu une bonne ambiance entre tout le monde dans l'équipe de France, un sentiment d'unité et d'appartenance très très forte. Et je ne dis pas ça pour vendre le truc ou cacher quelque chose. Réellement, nous, des fois, quand on lit la presse, on se dit mais il y a un décalage entre ce qu'on vit et ce que les médias racontent. Donc non, il y a, au niveau de l'équipe de France, il y a une très bonne ambiance, tout se passe très très bien, il y a des gens sérieux, motivés, et après bah, les résultats, voilà, ça dépend de chacun, ça dépend aussi des autres, ça dépend du contexte, mais c'est clair que là, on peut pas rêver mieux. Je veux dire, la première journée des qualifs, les deux filles à la perche vont en finale, les haies, ça se passe super bien, Alice Finot hier qui bat le record de France de 5 secondes, bah, bref. Il faut le dire quand ça va bien, et là franchement ça va bien, et je suis sûr qu'on aura de super belles surprises sur ce championnat. En tout cas, c'est pas comme je le disais à 2 ans des Jeux qu'il faut tout remettre en question. Il faut donner de la confiance aux athlètes, les laisser faire. On a des gens super talentueux et vraiment super bien, donc c'est ce que la fédération fait, elle nous met dans de super conditions. Maintenant à nous de saisir notre chance et d'aller chercher des médailles ou au moins des places de finalistes et se battre, parce que ce qu'on nous demande, c'est d'arriver en forme à un championnat, d'être au mieux de sa forme, et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les athlètes de l'équipe de France.
Et je crois que c'est ce que vous avez prouvé hier en finale du lancer de marteau, où on le rappelle, jamais une finale de lancer de marteau n'avait atteint un tel niveau. Vous terminez quatrième malheureusement au pied du podium, en réalisant, on le rappelle, votre deuxième meilleure performance en carrière, direction les championnats d'Europe, même si, bon, on enlève 2 Américains, mais ce sera à peu près les mêmes adversaires.
Les 5 premiers, c'est les mêmes.
Hein. Et ouais, c'est ça va être compliqué, mais bon, on espère évidemment que vous pourrez effectivement en accrocher un, ou que peut-être un sera peut-être un peu moins en forme. En tout cas, on vous remercie pour votre disponibilité, votre fair play, pour les émotions que vous avez données hier. On vous souhaite toute la réussite possible, on vous retrouvera évidemment, on vous suivra sur l'antenne de RMC. À bientôt, Quentin.
Merci beaucoup.
Aurélien, je te garde quelques instants dans l'Intégral Sport, parce que ces mondiaux, ça se poursuit évidemment aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui au World Field, Eugene ?
Eh ben encore pas mal de Français. Déjà 22h, ça va arriver vite. Il y a la finale du 10 000 mètres avec Jimmy Gressier, le lion de Boulogne-sur-Mer, qui a très faim. Il le dit, il est frais mentalement, il a envie de tout bouffer. Alors bon, il vise une médaille plutôt au championnat d'Europe de Munich, parce que le problème aux mondiaux, c'est comme un petit peu avec Quentin Bigot au marteau, il y a les Polonais. Et ben sur le 10 000 mètres, il y a les Africains. Il y aura notamment les deux Ougandais, Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo. Également le champion olympique, l'Éthiopien Selemon Barega. C'est le podium olympique de Tokyo. Et puis je les cite tous les trois, mais il y en a aussi beaucoup d'autres malheureusement. Donc déjà l'objectif, ce serait d'attraper un top 8, top 10. Ce serait déjà une très très grosse performance pour Jimmy Gressier, lui qui est pour l'instant quintuple champion d'Europe espoir, autant sur du cross, sur du 5000, sur du 10 000. C'est un vrai phénomène de l'athlète français. Mais voilà, les courses de demi-fond, de fond, il va falloir passer devant les Africains. Mais pourquoi pas espérer de grandes choses pour Jimmy Gressier. On aura ensuite, dans la nuit de dimanche à lundi, les demi-finales du 110 mètres,
oui,
où les Français ont fait un 3 sur 3 en série. On va en reparler tout de suite. Il y aura la finale de la perche féminine avec 2 Françaises, les demi-finales du 400 mètres haies avec un Français, la finale du 110 mètres haies. Donc les demi et la finale s'enchaînent dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis pour finir, on aura en plus la chance de vivre un 100 mètres féminin toujours exceptionnel, avec notamment les deux Jamaïcaines, Ellen Thompson et Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Ah, les deux déesses jamaïcaines dans un style totalement opposé, les deux rivales effectivement dans sa ligne d'avance. Si on verra si on a le temps d'en dire un mot, mais avant ça évidemment, focus sur le 110 mètres haies, 3 Français qui passent en série. Est-ce que, Aurélien, on a une chance d'avoir les 3 Français en finale?
On a une chance. Après, il va falloir élever le niveau clairement, ouais, parce que dans les séries, alors C'était donc le matin heure américaine. Donc déjà Sacha Zoya nous l'a dit. Moi je suis pas du matin. bon ça s'est vu, mais en 13-48 il s'est quand même qualifié tranquillement. Il a terminé troisième de sa série. Les quatre premiers qualifiés en demi, donc il n'a pas vraiment tremblé. Mais 13-48 c'est un chrono assez moyen. Il a tapé des haies, mais les haies c'est un sport tellement compliqué qui tient à vraiment rien du tout qu'on peut quand même se féliciter qu'il n'ait pas craqué, puisque devant lui il y avait Daniel Roberts, champion des États-Unis en titre, un des grands favoris au podium, qui lui a chuté et qui est éliminé en série. Donc l'important c'est de passer les tours. Pascal Martino Lagarde 13-49, lui il est arrivé totalement blessé de partout, mais il nous dit ça va cartonner au championnat parce que je m'accroche toujours. Bon, pour l'instant il a raison. Écoute, il a terminé cinquième de sa série en 13-49, il a été repêché au temps, ça a été vraiment très très limite, mais il va serrer les dents. Ça, Pascal, on peut lui faire confiance, il va serrer les dents pour essayer de passer les demi. À Tokyo, il était dans le même cas aux Jeux Olympiques, il a finalement terminé cinquième de la finale en 13 secondes 16, donc on peut lui faire confiance. Et puis il y a le petit jeune Juste Kouaou Maté, lui il s'est qualifié en demi-finale avec un chrono de 13-32, c'est son niveau, quasiment son meilleur niveau, il a un record en 13 secondes 27, lui il découvre totalement cette compétition, ce sont ses premiers championnats en plein air internationaux, donc pourquoi pas lui aussi passer. On peut miser quand même plus sur PML et Zoya. Kouaou Maté, s'il accroche la finale, là, ça sera vraiment un très, très beau cadeau pour la France.
Et les trois Français en demi-finale du 110 mètres haies aux Mondiaux de Eugene. On suivra ça, évidemment, avec toi sur l'antenne de RMC. On n'a plus le temps pour parler des trois Américains qui ont fait 1, 2 et 3 en finale du 100 mètres. Un peu boring, hein, ces Américains. Un petit mot, rapidement, Aurélien, sur le 100 mètres féminin. C'est pour quand? C'est pour qui? Hélène Thompson ou Shelly-Ann Fraser-Pryce?
Ah bah la bagarre, de toute façon, elle aura lieu en série. Pour l'instant, c'est Shelly-Ann Fraser-Pryce qui a montré le plus de choses. Elle a couru en 10,89. Hélène Thompson s'est réservée un petit peu en plus de 11 secondes. Il y aura aussi la troisième Jamaïcaine, Sherika Jackson. Hein, ouais. Les trois Jamaïcaines qui étaient sur le podium à Tokyo. Et on va pas oublier non plus l'Ivoirienne, Marie-Josée Talou, mm-hmm. qui est un petit peu comme Quentin Bigot, collectionne les quatrième, cinquième places. Voilà, on espère pour toute la communauté francophone l'avoir montée sur la boîte. Embêter les Jamaïcaines. Et il y a aussi la Britannique Dina Asher-Smith qui est en forme. Mais Shelly-Ann Fraser-Pryce à l'applaudimètre dans le stade, c'est la grande star. Mmh. Elle avait des cheveux violets, roses jusqu'aux fesses. C'était magnifique. On va voir ce qu'elles vont faire en demi puis en finale. Mais ça va être du grand spectacle. C'est une certitude.
La touche Fraser-Pryce, toujours un petit peu plus excentrique que sa rivale Elaine Thompson, qui est plus dans la retenue. Les mondiaux de Eugene à suivre sur RMC jusqu'au 24 juillet. Grâce à toi, Aurélien Tiercin, sur place. Merci beaucoup encore une fois d'être venu dans l'Intégral Sport et à très vite sur l'antenne de RMC. Dans un instant, je vous passe la main à Christophe Cessieux. Je vous rappelle juste qu'à l'Euro en Angleterre, l'Euro de foot féminin, la Suède mène 3-0 à la mi-temps contre le Portugal. Elle est pour l'instant en tête de ce groupe C. Ce sont donc les Pays-Bas qui sont tenus en échec 0-0 par la Suisse, qui sont pour l'instant les adversaires des Françaises de Corinne Diacre, déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les Françaises qui affrontent l'Islande. Demain, place à l'after tour après cette 15e étape à Carcassonne. On renvoie la balle à Christophe Cessieux. Christophe, bon, Philipsen qui gagne et Vingegaard qui perd deux Grégario, deux porte-flingues.
Ah oui, effectivement, c'est un moment difficile que traverse la formation Jumbo avec l'abandon ce matin de Primoz Roglic, suivi de celui de Kruijswijk sur chute, victime sans doute d'une fracture de la clavicule. Ils vont donc se retrouver quasiment mano à mano, Vingegaard et Pogacar pour les étapes de montagne qui arrivent à partir d'après-demain. On va également revenir sur cette occasion ratée pour Benjamin Thomas, le coureur de la formation Cofidis, qui est passé tout près d'une victoire d'étape, la première victoire pour les Français. Il échoue à 400 mètres de la ligne, rattrapé par les sprinteurs et notamment par Jasper Philipsen qui s'impose ici à Carcassonne. Demain, journée de repos dans la canicule de Carcassonne. On y revient dans un instant sur tous ces petits détails de l'after tour. À tout de suite.